chapitre 14. L'évangile de Jean, chapitre 14. Nous allons remonter jusqu'au verset 8 pour avoir un peu de contexte. Nous sommes dans la chambre haute, la nuit avant la crucifixion de Jésus. Et il n'y a que quelques heures avant le calvaire. Et dans cette chambre haute, ce n'est pas les disciples qui réconfortent Jésus, c'est Jésus qui réconforte les disciples. Il commence en disant que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et il va continuer ce soir-là, en leur donnant beaucoup d'instructions très intimes et très importantes pour qu'ils sachent comment maintenant vivre alors qu'ils ne seraient plus là physiquement. Et que c'est eux qui vont faire venir le royaume de Dieu par la prédication de l'évangile dans le monde. Et donc, on remonte jusqu'au verset 8, mais ce sont les versets 12 à 14 qui nous concernent ce matin. Mais le verset 8 dit, « Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. » En vérité, littéralement, il dit « Amen, Amen ». Et quand Jésus préface en disant « Amen, Amen », ce qui va suivre est solennel. Il dit « en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Aujourd'hui, nous allons nous limiter au verset 12, en fait. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voilà un verset biblique souvent trop mal compris. Et vous savez, le problème pour vous et pour moi dans notre vie chrétienne, c'est lorsque nous comprenons mal un verset biblique très important comme cela, ça peut faire des dégâts dans les églises. De trois manières. Première manière, vous voyez un verset comme ça, vous allez faire des œuvres plus grandes que Jésus et vous comprenez mal. Et vous vous dites, mais personne ne fait les miracles comme Jésus. Et ça vous amène, parce que vous ne comprenez pas ce que Jésus est en train de faire, vous commencez à avoir des doutes par rapport à la parole de Dieu. Vous pensez qu'il y a quelque part, vous ne savez pas pourquoi, mais ça vous trouble, ça ne s'est pas réalisé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Soit Jésus exagère, soit c'est simplement pas vrai, mais donc vous commencez à avoir des... C'est au moins, si vous êtes assez arrogant, pour voir un problème comme ça et spontanément penser que vous comprenez mieux les choses que Dieu. N'est-ce pas? Parce que normalement, quand nous voyons un verset comme ça, qui ne cadre pas avec notre compréhension, nous disons, je suis petit, je ne comprends rien, je comprends mal le verset. N'est-ce pas? Mais parfois, il y a des gens qui tombent sur des versets comme ça, ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes, qu'ils savent tout, qu'ils disent que, voilà, la Bible n'est pas vraie. Ah, je vais vous amener dans les 30 minutes à suivre à voir que je pense que on est bien plus petit qu'on ne pense. Deuxième problème. Quand vous comprenez un verset mal comme cela, vous pouvez développer toute une fausse piété, une sorte de fanatisme qui n'est pas la religion biblique. Et il y a certaines églises dans ce monde, et je vais le dire tout simplement, dans les milieux charismatiques, il y a de plus en plus d'excès, des excès qui endommagent le témoignage de Christ dans ce monde et qui développent une fausse piété où tout est centré sur le spectaculaire, tout est centré sur le spectaculaire. Et on prétend à des choses qui ne sont pas vraies. Reinhard Bonnke, j'ai mal prononcé le nom, mais c'est un des plus grands évangélistes européens aujourd'hui, un Allemand très connu. Lui, il prétend que les croyants aujourd'hui peuvent faire des signes et des merveilles plus spectaculaires que Jésus lui-même. Des miracles physiques plus spectaculaires que Jésus lui-même. Et il a écrit tout un livre au sujet du verset que nous étudions aujourd'hui pour soutenir cette thèse. Maintenant, ça va produire une religion différente que celle que vous voyez ici. Parce que si ça c'est vrai, on doit y aller, chers amis. On a tort de ne pas être là-dedans, si c'est vrai. Troisième problème. Vous pouvez regarder un verset comme ça, et si vous pensez que Jésus veut vraiment dire que nous, chacun de nous, on va faire des miracles physiques plus grands que lui, vous allez dire, ça ne marche pas pour moi. Il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Et vous commencez à vous décourager et à vous contenter d'un christianisme médiocre. Vous vivez dans l'incrédulité, simplement. Je ne parle pas par rapport au miracle, je parle par rapport à tout. Vous n'attendez presque rien du Seigneur parce que vous vous dites, ah, si c'est ça, je ne suis pas dans l'élite. Je suis dans la classe, dans le wagon deuxième classe, là. N'est-ce pas? Vous voyez, pourquoi mal comprendre un verset biblique comme ça est vraiment grave. Alors, nous allons, avec la grâce et l'aide du Seigneur, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Nous sommes dans cette chambre haute. Et Jésus vient de dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Et il dit que ce n'est pas moi qui dis ça. Ça ne vient pas de moi de dire ça. C'est le Père qui demeure en moi, qui fait ses œuvres. Et cette phrase peut susciter une petite angoisse dans les disciples. Pourquoi? Parce qu'il vient de leur dire, je m'en vais au Père. Si le Père est en toi, Jésus, il demeure en toi, il fait ses œuvres, les œuvres du Père à travers le Fils, quand tu pars, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va faire ses œuvres? Comment est-ce que nous allons continuer le royaume de Dieu? Nous as appelés, tu nous as fait venir à toi pour être tes prédicateurs. Comment on va faire? Et donc Jésus dit, ayant dit que c'est le Père qui fait les œuvres en lui, il va maintenant dire que c'est vous qui allez faire mes œuvres à moi. Je serai en vous. Donc on relit dans ce contexte. Il réconforte donc les disciples en disant, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi. Vous voyez le mot aussi? Lui aussi. Comme moi, je fais les œuvres du Père. Vous aussi, vous allez faire mes œuvres. Vous allez faire les œuvres que moi je fais et on fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Hey, si nous sommes les disciples, ça c'est... Oh, quelle promesse! Crois! Ça nous rassure que, d'une part, notre ministère ne va pas se terminer avec le départ de Jésus au ciel. Et d'autre part, on aura ce qu'il faut, la capacité qu'il faut, pour faire les œuvres encore plus grandes que Jésus. Le royaume va venir d'une manière encore plus grande à travers nous. Et Jésus veut donc nous mettre au repos et mettre dans cette anticipation. Maintenant, notre première question, c'est qui fait les œuvres de Jésus et les œuvres même plus grandes que Jésus a fait quand il était sur terre? Qui les fait? Regardez le verset 12 encore. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, ou quiconque croit en moi, les mêmes mots grecs sont parfois traduits, quiconque croit en moi, fera lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera de plus grandes. Alors, cette même phrase en grec, celui qui croit en moi, on le retrouve par exemple dans des phrases comme ça dans l'évangile de Jean. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et celui qui croit en moi fera des plus grandes œuvres que moi j'ai fait. Donc, faire des œuvres plus grandes que Jésus n'a fait d'être qu'il était sur la terre, ce n'est pas la marque d'un apôtre, c'est la marque d'un chrétien. C'est la marque d'être chrétien. Et maintenant, je vous amène, j'espère avoir, oulala, comment est-ce possible? J'ai tout mal compris dans ce verset. Parce que vous pouvez voir que ça ne peut pas être des plus grands miracles physiques que Jésus. Jésus a changé de l'eau en vin. Jésus a marché sur l'eau. Jésus a nourri plusieurs milliers de personnes avec le petit sac, repas de midi en sac d'un garçon. Et Jésus a ressuscité un homme de la mort qui avait été mort pendant 4 jours et qui puait. Celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres que moi je n'ai fait. Est-ce que vous connaissez qui que ce soit qui a marché sur l'eau? Je voudrais le rencontrer, sans ski. Qui a changé l'eau en vin, qui a nourri plusieurs milliers de personnes avec juste quelques poissons et quelques pains. Vous voyez? Jésus apparemment n'est pas en train d'enseigner que celui qui croit, c'est-à-dire tout chrétien, va faire des miracles physiques plus grands que lui. D'ailleurs, la Bible enseigne que tous les chrétiens ne font pas des miracles physiques. Vous voulez entendre le passage? 1 Corinthiens 12, chapitre 12, les versets 27 à 30. Il dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, et ensuite le don des miracles, puis des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? La réponse attendue est non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous font-ils des miracles? Non. Mais Jésus a fait ses miracles physiques régulièrement. Donc, nous arrivons pour le moment à comprendre ce que le verset ne veut pas dire. Vous allez
vous faites des œuvres plus grandes que Jésus quand il était sur terre. Mais Jésus n'est pas en train de parler tout simplement de miracles physiques. Parce que personne n'a jamais fait des miracles physiques plus grands que les siens en qualité ou quantité. En qualité, personne n'a jamais marché sur l'eau, nourrir des foules. En quantité, non plus. On retrouve Jésus constamment. Toute la ville est à sa porte un soir et il guérit tous les malades dans une ville un soir. Le nombre de miracles de Jésus dans les évangiles dépasse de loin le nombre de miracles dans le livre des Actes. Donc, ça ne peut pas être ça. Nous voulons donc savoir, est-ce qu'il parle même de miracles? Parce qu'il n'a pas utilisé le mot grec pour miracle. Il a utilisé le mot œuvre. Il y a un mot dans l'évangile de Jean qui est toujours utilisé pour miracle, et ce n'est pas le mot que Jésus a utilisé. Mais Jésus a utilisé le mot œuvre. Je vous donne quelques autres endroits où ce mot est utilisé. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Vous ferez des œuvres plus grandes que moi, des bonnes, vos bonnes œuvres, et qui glorifient votre Père. Écoutez ceci. Les gens sont venus à Jésus. Ils ont posé cette question. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ok. Est-ce que Jésus n'est pas du tout en train de parler du miraculeux? Non, je crois qu'il est en train de parler du miraculeux. Parce que il faut quand même nuancer. Le mot pour œuvre, le mot ergon, est utilisé 27 fois dans l'évangile de Jean. 5 fois pour parler de l'œuvre du Père à travers le Fils, 6 fois pour parler de l'obéissance des hommes, des chrétiens, et 16 fois pour parler des miracles de Jésus. Et dans le contexte, vous ferez de plus grandes œuvres que moi, je crois qu'il est évident que Jésus parle du miraculeux. Du miraculeux, mais je ne pense pas des miracles physiques comme la guérison ou nourrir une foule. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la première chose qui va nous mettre sur la piste pour comprendre Jésus, c'est la fin du verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera du plus grand parce que je m'en vais au Père. Pourquoi est-ce que nous, on va faire des plus grandes œuvres que ce qu'il a fait sur la terre parce qu'il va au Père? Dites-moi, comment va-t-il au Père? Il ne peut pas arriver au Père sauf à travers la croix. Et à la croix, il remporte une grande victoire sur le péché, Satan et tout le royaume des ténèbres. Il triomphe à notre place pour nous. Il nous gagne un triomphe sur la mort, le péché et Satan. Il inverse le rapport des puissances, des pouvoirs dans l'univers. Et il est exalté en tant que homme, à notre place, à la droite de Dieu, toute autorité dans le ciel et sur la terre lui sont données, et il reçoit le don du Saint-Esprit pour l'Église dans son humanité ressuscitée. Il est inondé de l'Esprit-Saint et il répand sur l'Église à la Pentecôte ce don. Et voilà commence une nouvelle ère. Une nouvelle ère où Dieu agit avec une puissance qui n'a jamais usé dans l'histoire humaine. Mais pour cela, il faut que Jésus passe par la croix et gagne cette nouvelle puissance pour œuvrer dans le monde. Je vous prouve ça, que la mort et l'exaltation de Jésus et la nouvelle autorité qu'il a en tant qu'homme à notre place signifie une nouvelle ère de puissance, plus grande œuvre à cause d'une plus grande puissance. Premier verset, Jean 16. Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, l'Esprit Saint, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Vous voyez? Premier verset. Deuxième verset. Jean chapitre 16, versets 7 à 11. C'est juste la suite du verset que je viens de lire. Je l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, ainsi de suite. Donc il y a une venue du Saint-Esprit qui est différente dans une mesure plus grande et une œuvre qui apparemment est plus grande que tout ce que Dieu a fait avant. Un âge de clarté où les hommes vont voir leur péché de manière plus claire et voir leur besoin de Jésus va venir, mais seulement à partir de la mort et la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit, dit Jésus, dans cet nouvel âge après son départ, va faire une œuvre tellement plus grande que tout ce que Jésus a pu faire. Il va produire une foi vraiment beaucoup plus claire, plus glorifiante à Dieu. Je vous explique. Vous rappelez que la foi des apôtres, Jésus constamment, il leur dit, vous êtes des hommes de petite foi, de peu de foi. Même après sa résurrection, Thomas ne veut pas croire. Et quand Jésus apparaît à lui, Thomas lui dit, enfin il croit parce qu'il voit, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, écoutez bien, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il parle de cette nouvel âge qui va commencer maintenant, où Jésus va s'en aller et on ne peut pas voir. Mais les gens vont croire et plus rapidement et plus fort, ils ne vont pas douter comme Thomas. Et vous savez, quand vous lisez dans le livre des Actes, Paul va aller dans des endroits où on n'a jamais entendu parler de Jésus, on n'a jamais vu un seul miracle de Jésus. Et la première fois que les gens entendent parler de Jésus, ils croient. Ils croient de tout leur cœur qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le Sauveur. Et ils sont sauvés. Et on doit dire, chers amis, quelle est la puissance? Je comprends quand les gens voient les miracles, etc. Je comprends comment certains viennent à la foi. Mais quelle puissance il faut pour que quelqu'un ne voit rien et il vienne être convaincu que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, qu'il est mort sur la croix et ressuscité pour nous. Alors ça, c'est une plus grande œuvre que Jésus n'a jamais fait. Il a amené des gens à la foi seulement à travers plein de miracles, à travers la vue. Mais oh, la puissance pour amener les gens à la foi sans la vue, comme vous et moi. J'ai cru, j'en suis convaincu. Et quelle est la puissance à l'œuvre en moi et en vous, en celui qui croit, pour que nous fassions cette œuvre. Voilà l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Jusqu'au point où Jésus dit ceci. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Dans toute l'histoire, jusqu'au moment où Jésus est venu, Jean-Baptiste l'a précursé, il l'a annoncé, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, Ça veut dire, dans cette nouvelle ère des chrétiens, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Vous voyez? Vous ferez de plus grandes œuvres que tout le passé, parce que cette nouvelle ère est un âge où nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes déjà dans la résurrection. Ça, c'est une œuvre plus grande. Et nous vivons une vie différente. Et nous amenons des gens partout dans le monde qui n'ont jamais vu quoi que ce soit. Nous les amenons à carrément une résurrection. De la mort spirituelle à la vie spirituelle. Maintenant, c'est très bien que Lazare ait été ressuscité physiquement. Très bien. Ça demande de la puissance pour ressusciter le corps. Mais je vous dis, pour ressusciter une âme de la mort, une mort beaucoup plus profonde, pour qu'il voie ce qu'il croyait pas du tout avant, pour qu'il aime ce qui l'intéressait, ça, il faut de la puissance. Ça, c'est une plus grande œuvre. Dans cet nouvel âge, la raison pour laquelle nos œuvres sont plus grandes, c'est aussi l'étendue de ce que nous faisons. Combien de personnes est-ce que Jésus a pu amener à la foi pendant ces 3 ans de ministère et de miracles? Vous savez le nombre? Probablement environ 500. Je vous lis. En parlant après sa résurrection, les anges disent aux femmes, allez dire à ses disciples, donc à tous les chrétiens, et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Donc, quand Jésus ressuscite, une annonce est faite. Et on doit aller dire à tous les disciples, à tous les vrais croyants qui ont pu croire dans ces 3 ans, tout le monde doit aller voir Jésus en Galilée. C'est là qu'il y aura une apparition un peu en masse, okay, pour tout le monde. C'est pour cela qu'en 1 Corinthiens 15, Paul donne une liste des apparitions de Jésus. Il est apparu à Jacques, et puis à tous les apôtres, et puis à moi. Et il dit, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Sans doute, ça c'est cette apparition en Galilée, où tout le monde devait savoir et tout le monde devait se rendre. Donc le nombre de vrais croyants que Jésus a pu amener à lui en 3 ans d'œuvre n'est pas immense. Et ça correspond tout à fait à ce que nous voyons dans le livre des Actes. Que quand les choses commencent, il y a très peu de gens qui croient en Jésus. Hein? Maintenant, combien de gens ont cru en Jésus à travers le seul sermon de 30 minutes de Pierre le jour de la Pentecôte? Vous savez le nombre?
3 000.
Jésus, en 3 ans, a pu faire une œuvre. Il a amené 500 à lui. Pierre, en 30 minutes, a fait une plus grande œuvre. Il a amené 3 000 à Jésus. En un seul sermon. Vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Car je m'en vais au Père. Et ce n'est pas Pierre qui a une plus grande puissance, c'est Jésus qui a une plus grande puissance qui lui est accordée de la part du Père en tant que Messie et médiateur. Ce sont les œuvres de Jésus à travers Pierre. Maintenant, je voudrais finir en donnant une autre raison pour confirmer que ce que je vous dis est vraiment, c'est ça que Jésus est en train de faire. Non pas vous ferez des plus grands miracles physiques, mais pour Jésus, écoutez bien, le miracle physique est petit
pour Jésus-Christ. C'est une œuvre petite par rapport à l'œuvre spirituelle qui sauve l'âme. Maintenant, notre problème souvent, chers amis, c'est que nous sommes fous, nous sommes insensés, nous sommes charnels, et notre manière d'évaluer les choses et d'assigner la valeur est complètement à l'inverse. Ce que nous pensons être plus grand, Jésus regarde ça et ça, il dit « ça c'est rien ». Et c'est tout le problème là. Et ceux qui pensent que les plus grandes œuvres, c'est les miracles physiques, c'est simplement un signe de leur état charnel, de leur manque de maturité, de compréhension, de voir les choses comme Jésus. Et donc, je veux juste vous montrer comment Jésus définit plus grand et plus petit. D'abord, Jésus est toujours en train de nous enseigner que le bien-être de l'âme immortelle est beaucoup plus important que le bien-être du porte-monnaie ou du corps physique. Écoutez ceci. Jésus dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. » Le bien-être de l'âme est tellement plus importante que même vous pouvez dire, « Bon, tuez-moi, c'est pas grave. » Parce que si mon âme vit éternellement auprès de Dieu, le corps sera ressuscité un jour. Ça, c'est pas un problème. Et Jésus dit, « Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Je suis prêt à donner une partie de mon corps, ou même à donner mon corps. Mais qu'est-ce que je pourrais accepter? Quelle raison me pousserait à perdre mon âme? Vous voyez? Donc si quelqu'un sauve mon âme immortelle, il a fait une chose beaucoup plus grande que de sauver juste mon corps. Il a dit, les disciples sont venus, un jour ils avaient chassé beaucoup de démons, et ils s'étonnaient, ils se réjouissaient de ce que, en son nom, ils étaient capables de chasser des démons. Voilà, nous sommes tellement fous pour penser que ça c'est grand. Et Jésus les reprend, il dit ceci, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous voyez? La valeur est inversée. Ce n'est pas des miracles physiques. C'est le salut éternel qui est le plus grand. Un jour, Jésus se fait amener un paralytique, vous vous rappelez, par ses amis, à travers le Troie, vous vous rappelez de ce jour, et voilà. Cet homme ne dit rien dans le récit. Il est amené par les amis. Et je me demande si ce n'est pas parce qu'il ne peut pas parler. C'est juste une question. Mais c'est extrêmement bizarre parce que Jésus oblige toujours le malade à lui dire ce qu'il veut. Que veux-tu de moi? Un aveugle est amené à lui et Jésus l'oblige. L'aveugle est en train de dire « Aie pitié de moi, fils de David !» Et Jésus l'oblige de spécifier pourquoi. « Que veux-tu de moi ?» Que je recouvre la vue. Mais Jésus est toujours en train d'obliger cette parole comme une expression de foi. Mais ici, l'homme paralytique ne dit rien. Et je pense qu'il ne peut rien dire. Et donc, qu'est-ce que Jésus va faire? Est-ce qu'il va dire « Lève-toi et marche. » Non. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Et il le laisse paralysé. Un peu après, il guérit sa paralysie, mais seulement parce que les pharisiens s'objectaient et disaient, comment peux-tu pardonner les péchés? Qu'est-ce qui prouve que tu peux pardonner les péchés? Et Jésus dit, ok, si c'est ça, qu'est-ce qui est plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou dire lève-toi et marche.
Et pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je dis, lève-toi, marche. Mais le plus grand, le plus important pour cette âme, la plus grande œuvre, ce n'est pas la guérison physique. Ce miracle prouve sans aucun doute que Jésus considère que la plus grande œuvre pour quelqu'un, c'est de sauver son âme. Et maintenant, nous arrivons au dernier verset. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le culte, c'est Jean chapitre 9, pardon, chapitre 5, où Jésus parle des plus grandes œuvres qu'il va faire. Même phrase que dans notre verset. Dans notre verset, il dit, vous ferez de plus grandes œuvres que ce que j'ai fait. Et dans ce verset, Jésus dit, en Jean chapitre 5, verset 20, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes. » Alors, c'est lesquelles? Dis-nous, parce que ça nous résout le problème. « Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Bah, tu viens de guérir un paralytique. Qu'est-ce qui peut être plus grande? Et il explique, « Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi, le Fils donne la vie à qui il veut. » Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Si on va juste un peu plus loin dans le passage, dans le verset 25, il dit, « en vérité, je vous le dis, l'heure vient, parce qu'il faut qu'il meure et qu'il soit exalté auprès du Père. Pour que... L'heure vient, et c'est maintenant, c'est-à-dire c'est quelque chose d'imminent, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, dans ce contexte, sans doute il y a aussi la résurrection générale à la fin des temps, mais ça commence par le fait que les âmes entendent Christ et il donne la vie à qui il veut. En tout cas, son œuvre plus grande n'est pas de faire notre miracle physique. Son œuvre plus grande, c'est de donner vie, une vie à l'homme ou la femme qui est spirituellement morte. Je voudrais vous raconter une histoire pour terminer ce sermon. Dans le 18e siècle, il y a eu un grand réveil spirituel dans plusieurs pays du monde. Ça a commencé en Angleterre. Ça s'est répandu en Écosse, en Irlande, en Amérique, enfin dans beaucoup de pays. Une des figures les plus importantes de ce réveil, c'était un prédicateur qui s'appelait George Whitefield. Alors Whitefield est devenu fameux. Il est devenu très ami avec Benjamin Franklin, un des signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Il était connu partout dans le monde et admiré. Il prêchait pendant plusieurs années de ce réveil. Il prêchait à des gens en plein air, souvent 20 000, 30 000, 40 000 personnes en plein air, sans pub, de bouche à oreille, qui entendaient que George Whitefield arrivait dans leur village ou leur ville et il venait en masse. Et des gens se convertissaient. Il y avait une œuvre tellement grande et puissante qui se faisait. Et, par exemple, il va à Boston et selon le journal de la ville, 23 000 personnes se retrouvent en plein air pour l'entendre. Il continue, il va en Philadelphie, en quittant Philadelphie, il écrit dans son journal, « La religion remplit toutes les conversations et je pense pouvoir dire que le Seigneur Jésus a remporté pour lui-même une victoire dans bien des cœurs. Du matin au soir, je n'ai presque pas eu le temps de grignoter le moindre bout de pain. Il se trouvait toujours quelqu'un qui, accablé par le poids du souci pour son âme, cherchait à s'entretenir avec moi. » Et un résident de Philadelphie à cette époque écrit ceci. Les effets produits à Philadelphie par la prédication de M. Whitefield étaient stupéfiants. De nombreuses personnes de toutes les confessions religieuses et d'aucune confession religieuse ont été amenés à chercher avec la plus grande ardeur à savoir ce qu'elles devraient faire pour être sauvées. Des multitudes ont eu une telle soif d'entendre l'instruction spirituelle que l'on a dû tenir des cultes publics deux fois par jour pendant une année dans la ville, dans plusieurs endroits. Et au jour du Seigneur, on a célébré le culte trois ou même quatre fois dans la journée. La ville a vu naître 26 sociétés pour la prière collective et le partage religieux. Juste parce que Whitfield est passé par là et la puissance de Dieu était sur lui. Peu après son départ de Philadelphie, le synode presbytérien tient son assemblée générale et dans son journal, nous lisons ceci. La transformation du visage religieux de la ville de Philadelphie est étonnante. Jamais un peuple n'a fait preuve d'autant de désir d'écouter des sermons, ni des prédicateurs d'autant de zèle pour accomplir leur devoir de leur office. Personne ne commande d'autres livres que ceux qui traitent de la piété et de la dévotion. Au lieu de chanter les chants banals et les ballades romantiques, partout les gens emploient leur loisir à chanter des psaumes, des hymnes et des chants spirituels. Tout cela est dû sous la grâce de Dieu au travail de Monsieur Whitfield. Quel était l'impact durable de cela? Dans un livre qui s'appelle « Une courte histoire du peuple anglais », J.R. Green écrit ceci. « En quelques années, le réveil changea tout le caractère de la société anglaise. » Maintenant, on ne parle plus de l'Amérique, mais de l'Angleterre, parce qu'il il allait entre les deux. 13 fois, il est allé entre les deux endroits. « L'église fut restaurée, » dit M. Green, « à la vie, à l'activité. La religion implanta chez les gens un nouvel esprit de zèle moral, tout en purifiant notre littérature et nos manières. Une nouvelle philanthropie réforma nos prisons, insouffla de la clémence et de la sagesse dans nos lois pénales, abolissant le trafic des esclaves, parce que c'est l'impact de Whitfield et le réveil qui a permis d'abolir l'esclavage et suscitant la première impulsion vers l'éducation des masses. On dit par exemple dans Nouvelle-Angleterre, donc le nord-est des États-Unis, pendant juste quelques années, ce réveil a converti 25 à 50 000 personnes sur une population de 250 000. Donc on parle de 10 à 20% de la population s'est convertie en quelques années. Pourquoi est-ce que je vous lis tout cela? Nous voulons comprendre quelle est l'œuvre plus grande que ce que Jésus a fait. Un jour, Whitfield reçoit la nouvelle qu'il y a des gens au milieu du réveil des chrétiens qui commencent à dire que Dieu suscite de nouveau des dons miraculeux. Et que c'est ça, ça va être, maintenant on arrive au comble. Et voilà comment Whitfield répond à cela. « J'apprends qu'il y a parmi vous une femme qui prétend avoir l'esprit de prophétie. Et plus inexplicable encore, j'apprends que le frère que j'aime de tout mon cœur en Jésus-Christ semble l'approuver. Vous avez donc grand besoin, mes frères, de suivre sans tarder le conseil de l'apôtre d'éprouver les esprits et de discerner s'ils sont de Dieu. Le diable commence à imiter l'œuvre de Dieu et parce qu'en l'occurrence, la terreur ne fait pas son affaire, il se transforme en ange de lumière pour mieux parvenir à ses fins. De même, écoutez bien la fin, je ne peux pas m'empêcher de penser que le frère tel est en ce moment même sous la coupe d'un esprit d'illusion. Et il continue pour dire ceci, mais hélas, quel besoin avons-nous de miracles? Guérison des corps malades, recouvrement de la vue, par les yeux aveugles, quand nous voyons tous les jours des miracles encore plus grands accomplis par la puissance de la parole de Dieu. Les aveugles spirituels ne voient-ils pas en ce moment même? Les morts spirituels ne sont-ils pas ressuscités? Les âmes lépreuses purifiées et l'évangile n'est-il pas prêché aux pauvres? Or, si nous possédons déjà la chose que les miracles annoncent, pourquoi tentons-nous Dieu en exigeant encore des signes? » C'est incroyable. Whitfield, pour lui, les miracles physiques, c'est petit. qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? On est en train de voir des hommes, des familles, des couples changer l'homme dans son intérieur. Tu guéris sa maladie et il est encore méchant avec sa femme. Tu guéris son âme et il devient un homme qui aime, qui affectionne sa famille. Vous voyez, je vous dis, celui qui croit en lui fera des œuvres plus grandes. Ce sont les œuvres que nous faisons. Nous allons chanter.